Bonsoir Francine.
Oui, bonsoir Sabine. Oui.
Eh bien, je vous écoute Francine. Qu'est-ce qui vous est arrivé?
Voilà. Jeudi, j'étais en voiture. Non, d'abord dimanche. Dimanche dernier, je suis montée à Lyon. Tout s'est bien passé. J'ai pris l'autoroute. Tout s'est bien passé. Oui. J'avais un rendez-vous. Bon. Et jeudi, je suis redescendue parce que j'habite dans le sud, vers Marseille. Et je prends l'autoroute à la sortie de Lyon. Je regardais. Bon, il y avait un ralentissement. Et bon, je roulais pas vite. Il y avait 80, environ 80, 90, mais encore. Et il y a un camion qui m'a doublé.
Oui.
Et elle m'a dit qu'elle m'avait pas vu dans l'angle mort. Alors, elle m'a accroché tout le long de la voiture. C'est une petite voiture, mais bon, tout le long, côté gauche.
Donc de votre côté à vous?
Oui.
Oui.
Bon, heureusement que j'avais la vitre levée, parce que je ne serais pas là en train de vous appeler. Et ouais, j'étais stressée comme tout. Enfin, sur le coup, non, mais c'est après.
Oui.
Et puis, je vois toujours. Et donc, la voiture, ma voiture. Elle s'est mise devant le camion. Je sais pas comment elle a fait. C'est tellement passé vite. Elle s'est mise devant le camion, donc le.
Sur la file de gauche?
Oui, voilà, sur la file de gauche. Elle a freiné. Donc, tout le côté gauche a été pris. Les deux portières enfoncées. Et le moteur, il marche. L'arrière. Et les pneus sont en bon état. Enfin, ils n'ont pas été. Et à chaque fois, je vois cette image.
Ça, oui, vous êtes extrêmement choquée. D'abord, c'est violent ce qui vous est arrivé.
Oui, c'est violent. Oh. Et oui, en 47 ans de permis, la première fois, ça m'arrive.
Et les accidents sur l'autoroute, même si ce n'est pas toujours les plus dangereux, ils sont extrêmement impressionnants parce que 80-90 pour avoir un choc, ça fait une grosse différence avec la vitesse en ville. Donc, ce n'est pas beaucoup pour une vitesse sur autoroute, mais enfin 80-90, si on additionne cette vitesse-là et celle du camion, ça fait déjà une vitesse importante.
Elle m'a dit qu'elle roulait à 30, mais bon, je veux bien.
Mais comment elle a pu vous dépasser sur la gauche si elle roulait à 30 et vous?
Elle m'a dépassé et je l'ai vu dans le rétro qu'elle allait me dépasser.
Oui.
Je reste sur ma file, de toute façon. De toute façon, j'ai cherché Marseille, je voyais le panneau Marseille, donc je reste sur ma file. Après, sur l'autre file, bien à droite, Lyon.
Je comprends.
Oui. Alors, c'est vrai, ça m'a choquée, comme j'ai appelé jeudi. Et ça s'est passé jeudi.
Donc, donc nous sommes mardi, donc ça s'est passé
jeudi, le 15, semaine dernière.
Ça s'est passé jeudi, et vous disiez que vous avez reconduit dimanche, c'est ça?
Non, j'ai pas conduit, j'ai la voiture au garage, donc mon assurance, elle est là-bas. Il y a le dépanneur qui est venu. Bon, je l'ai conduit, un peu pour sortir de Lyon parce que le dépanneur, là, le remorquage, ils peuvent pas remorquer la voiture sur l'autoroute. Alors, j'ai pris une bretelle à droite, Lyon, donc, direction Lyon. J'ai trouvé une station en service. Et là, j'ai appelé le remorquage qui vient me chercher.
Ce que je comprends, Francine, et ce qui a dû être très difficile, c'est que juste après l'accident, donc, vous n'avez pas été prise en charge. C'est vous qui êtes, qui avez conduit au ralenti votre voiture jusqu'à un endroit où vous avez pu appeler les secours.
Oui.
Et ce moment-là, il a dû être très difficile parce que vous étiez en état de choc.
Oui.
Ouais, vous deviez trembler comme une feuille.
Énervée en plus.
Et il y a eu une interaction entre vous et le conducteur du camion?
Non. Elle m'a dit, on fait comme ça. J'ai dit oui. Alors, elle a fait sur le portable. Elle me dit, vous avez dépassé. J'ai dit non, j'ai pas dépassé. Moi, j'étais sur ma file. Et après, elle m'a dit, je vous ai pas vu dans le rétro. Vous étiez dans l'angle mort. Ouais, mais un camion et une petite voiture...
En plus, l'interaction avec cette personne, c'est pas très bien passé finalement.
Si, elle a fait le. Si, au début, puis après, bon, c'est une jeune de une trentaine, 35 ans.
Oui.
À peu près.
Oui.
Non, après, on s'est mis sur la sur le nerf de repos, enfin de non, enfin de d'urgence, hein, une bande d'urgence.
Oui, une bande d'arrêt d'urgence.
Ah, oui, d'arrêt d'urgence. Moi, j'ai appelé le 17. Ils m'ont dit d'appeler le 17, la sécurité. Bon, ils m'ont dit bon, voilà, il y a pas de blessés. J'ai dit non, ça va. J'ai eu un peu mal à la tête, mais c'est passé.
Vous avez eu mal à la tête? On vous a examiné, Francine?
Non.
Et non, aujourd'hui, vous avez...
J'ai eu une petite bosse, mais ça y est, c'est parti. Hein.
D'accord. Vous n'avez plus rien, là? Vous n'avez pas de maux de tête?
Non, vous n'avez pas de vertige?
Pas de douleur?
Non. D'accord. Non, ça va. C'est... Oui, mais c'est remis. Après, mon assurance m'a envoyé un taxi pour me descendre sur Marseille. Parce que encore ils voulaient me prendre, ils voulaient que je prenne une voiture en location. J'ai dit non, ça va pas, non.
Oui,
non,
vous avez
non,
bien non. fait, vous avez bien fait.
C'était pas
raisonnable.
Bon, non, c'est une plateforme. Et...
Oui.
Bon. Et je dis non, moi je suis. Et le taxi, il a dit, non, faut pas qu'elle prenne une voiture de location, non. Elle n'est pas dans son état. Et c'est vrai, je n'étais pas dans mon état.
Et là, aujourd'hui, Francine, donc vous, comment vous vous sentez? Vous dites que vous revoyez la scène, c'est...
Oui, je vois juste le camion et puis moi en travers de la voiture, enfin, en travers de la route. Enfin,
Cette image-là, vous l'avez le
oui,
jour,
la
vous l'avez
encore.
La nuit aussi?
La nuit, je dors. Hein. Mais
vous arrivez à dormir?
Non. Enfin, je prends les tisanes, comme j'ai dit au... Oui, il prend des tisanes, il ne veut pas prendre de somnifères, ça sert à rien.
Mais si vous dormez bon, bien, non
moi, oui. Non, là, je prends les tisanes, puis bon, avec le temps. Et maintenant, ce qui me stresse, que le garage, j'ai appelé le garage, j'ai dit non, pour la, parce qu'elle n'est plus côté. J'ai dit non, moi j'ai fait des réparations et tout. Je leur ai envoyé les factures et tout. Alors demain après-midi, c'est que de la tôle, hein. En regardant bien, c'est les deux portières qui sont enfoncées et un peu l'aile qui est un peu tordue, comme on dit.
Oui. Ben, d'après ce que vous dites, Francine, ce qui est le plus difficile dans ce qui vous arrive, c'est pas trop les questions pratiques, parce que bon, c'est toujours très ennuyeux, mais elles vont se résoudre. Je suppose que l'assurance vous a dit que vous n'étiez pas en tort. Les choses vont se réparer.
Oui.
Donc là, vous avez des problèmes pratiques, vous serez privé de votre voiture, vous avez des dossiers ennuyeux à faire. Mais ce qui est le souci, c'est plutôt le choc que vous avez reçu.
Le choc, oui.
Oui, et puis l'état post-traumatique que vous avez. Parce que quand vous dites que vous revoyez en boucle les images qui passent, ça, c'est le signe du choc traumatique que vous avez eu et qu'il ne s'agit pas minimiser.
Eh oui. Ce que j'ai peur, c'est plus tard d'avoir le contre-coup. Là, ça va.
Qu'est-ce que vous appelez le contre-coup plus tard?
Ben, je sais pas.
Qu'est-ce que vous craignez?
Aucune idée. Je ne sais pas s'il serait bien ou il ne serait pas bien.
Alors, pour vous expliquer comment les choses fonctionnent avec l'esprit, donc sur le moment quand la situation s'est produite, toutes vos ressources cérébrales étaient focalisées sur la survie. C'est-à-dire sur les gestes à faire pour ne pas être en danger, pour vous mettre à l'abri, pour gérer ce qu'il y avait à gérer sur le plan pratique. Là, ce sont vos forces de survie qui se sont mises en mouvement. Donc, sur le moment, vous ne pensez pas au danger auquel vous venez d'échapper, vous ne pensez pas... Vous êtes uniquement concentré sur l'action efficace. Ça, c'est au moment de l'accident. C'est la raison pour laquelle, sur le moment, vous ne ressentez pas des émotions qui vous submergent, du type la peur, l'angoisse, le tremblement ou même la colère. Voilà. Donc ça, c'est le temps de gestion de l'urgence. Et ensuite, vous avez continué à gérer l'urgence parce que vous avez eu à conduire vous-même pour arriver à la station-service et demander le secours. Donc là, votre cerveau était encore en mode de gestion de l'urgence. Donc là, vous ne ressentiez pas encore les émotions parce qu'il s'agissait d'assurer votre survie, de vous mettre à l'abri. Et ça n'est qu'après, quand la fonction de survie est assurée, que vous êtes à nouveau en sécurité et que les gestes d'urgence ont été faits, que votre esprit est disponible pour traiter ce qui vous est arrivé. Et c'est là que se mettent en mouvement, a posteriori, toutes les émotions. Et je suppose que les pensées que vous avez, c'est « Mon Dieu, qu'est-ce qui aurait pu m'arriver ? J'aurais pu... »
Oui.
Voilà. Et là, vous faites
belle, hein.
Tous les scénarios possibles.
Oui.
Voilà.
C'est vrai. Parce que s'il y avait eu le réservoir de l'autre côté, donc le côté gauche, ben, ça aurait fait des dégâts. Hein.
C'est ça. Vous envisagez toutes les hypothèses.
Oui,
voilà, vous le dites. Si je roulais plus vite, si j'avais pas ma ceinture, si le réservoir. Et là, votre esprit commence à intégrer. Il fait l'épreuve de réalité. Votre esprit est en train d'intégrer la gravité de ce qui vous est arrivé et où ça aurait pu vous mener. Donc là, vous êtes dans ce moment-là. Alors, quand vous dites « je crains le contre-coup », là, vous y êtes dans le contre-coup.
Oui.
Il ne peut pas vous arriver...
Qui remonte à la surface, oui.
Voilà. Et là, maintenant, alors, ce qui peut vous arriver après, comme deuxième temps du contre-coup, là, je vous dis les hypothèses, hein, ce n'est pas forcément ce qui va se produire. Ce qui peut se produire après, une fois que vous aurez passé ce moment post-traumatique où vous voyez les images en boucle, vous pouvez garder des peurs ou des phobies. Par exemple, vous pouvez... Voilà, c'est ça la trace qui peut rester. Vous pouvez avoir peur en voiture dans certaines conditions. Par exemple, vous pouvez avoir une phobie des bancs du tracé sur la route. Vous pouvez...
Ah oui.
Voilà, ça c'est des choses... C'est le pire qui puisse vous arriver après. Et si jamais... Voilà, c'est le pire qui puisse arriver. Mais là, le plus gros contre-coup, il est maintenant. C'est-à-dire au moment, voilà, tout ce qu'on appelle le stress post-traumatique.
Mmh.
Alors, la façon dont votre esprit répare ça, parce qu'on peut se faire aider si c'est difficile, mais nous avons tous nos mécanismes d'auto-guérison. On a une formidable technologie intérieure pour toutes les circonstances de la vie. Donc, la façon dont votre esprit se répare, c'est que il fait le scénario, il le repasse en boucle. Et en fait, si vous observez bien la façon dont les scénarios repassent en boucle, vous remarquerez que très souvent, il y a des petits détails qui changent. C'est-à-dire, l'image se transforme petit à petit. Et c'est pareil dans les cauchemars.
Ah oui, d'accord.
Vous voyez, par exemple, pour ceux qui font des cauchemars post-traumatiques, la nuit, le rêve arrive, on a l'impression que c'est un rêve à l'identique, mais nuit après nuit, un petit détail se transforme et se transforme, le rêve devient de moins en moins angoissant, et c'est comme ça que l'esprit intègre, métabolise ce qui est arrivé. Si vous voulez, ces images à répétition qui se transforment progressivement, c'est le processus de guérison de votre esprit face au traumatisme. C'est un mécanisme normal.
Vous voyez ? Donc ça va s'arranger au fur et à mesure.
Exactement. Donc ne luttez pas contre l'arrivée de ces images. Laissez-les passer. Voilà, sans non plus les entretenir, vous focaliser.
Non.
Mais quand elles arrivent, vous les laissez passer en vous disant que c'est le processus normal de réparation de votre esprit. En général, voilà, il faut plusieurs semaines. Comptez plusieurs semaines.
Oh oui. Et là, la semaine prochaine, le 28, donc.
Oui.
Je sais pas. Oui, vers le 28. Je vais 3 semaines. Je vais aller dans un centre pour le métabolisme. Ouais.
Donc de nutrition,
donc,
c'est ça.
C'est pas une cure, c'est un séjour hospitalier.
Oui.
Mais dans un centre, en dehors de l'hôpital.
D'accord.
Et là, j'ai fait beaucoup de. Il y a beaucoup de. Bon, les infirmières, on se fait chouchouter.
Vous voulez dire que Francine, vous avez un trouble métabolique ? Vous êtes diabétique ou quelque chose comme ça ?
Oui, voilà, je suis diabétique.
Oui. D'accord, donc ça,
et
c'est autre chose.
Chaque année, j'y vais. Et là, je ne sais pas pourquoi, je veux y aller cette année. Enfin, cet été. En principe, je vais en fin d'année, parce que comme je ne suis pas trop gourmande, les chocolats, oui, la boîte, elle va y passer.
Ah.
Pour les fêtes de fin d'année.
Oui.
Comme je vis seule. Alors, bon, en fin d'année, quand il y a moins de monde, moi, ils me connaissent maintenant là-bas.
Oui.
Mais bon, c'est bien parce qu'on fait beaucoup d'activités, on fait de la marche, on fait du sport, enfin, on fait pas mal de choses.
Je pense
la
que ça arrive.
La relaxation aussi avec les infirmières aussi.
Ça, ça arrive à point nommé cette, ce
oui,
séjour que vous faites.
Parce
oui, que si le lien humain sécurise énormément dans ce que vous avez vécu. Donc si vous êtes entouré avec des personnes sécurisantes, en principe les infirmières sont là pour ça, et surtout si le personnel vous connaît, c'est également ce qui peut favoriser le processus de guérison de votre esprit, comme on l'a indiqué tout à l'heure. Donc ça,
ah,
c'est une excellente
oui, c'est
décision
vrai,
d'aller dans, le, dans votre centre maintenant.
Oui, ben, je vais là mercredi prochain et bon, le temps de faire le nécessaire pour la séance. Moi, je dis, si je l'ai pas avant le 28, vous la gardez jusqu'au mois d'août et j'irai la chercher. Et là, je serai peut-être remis de mes émotions, comme on dit.
Oui.
Je pense, hein.
Oui, vous savez, ça va, comme on le disait, ça va se faire progressivement. Comptez quelques semaines, vous verrez, les images dans votre esprit vont se transformer petit
ouais,
à petit.
D'accord.
Et ensuite, il s'agira d'être attentive à voir si vous avez des phobies en reprenant la voiture ou si vous avez des crises d'angoisse qui vous semblent irraisonnées. Là, il faudra penser que ça, vient, ça peut venir de là. Et à ce moment-là, vous pourrez consulter. Voilà, le médecin généraliste,
ah,
ça peut suffire hein, dans ces cas-là pour vous donner un peu d'anxiolytique si à besoin. Mais bon, on n'en est pas là. Pour l'instant, vous êtes vraiment dans quelque chose de tout à fait normal.
Oui, d'accord. C'est bien.
Voilà,
oui,
Francine.
Ben, je vous remercie beaucoup, ça m'a soulagée, et puis bon, très bien.
Prenez bien soin de vous, et dans tout ce que vous avez dit, j'entends que des choses normales. Donc là, vraiment, les choses devraient suivre leur cours, c'est quand même pas rien ce qui vous est arrivé.
Oui, c'est vrai, c'est pas rien.
Oui.
C'est la première fois que j'ai un accident comme ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie.
Oui, oui, puis bon, nous savons intégrer ce type, de, ce
oui,
type d'épreuve. Voilà. Passez un bel été, Francine. Prenez soin
merci
de vous.
Merci beaucoup et vous aussi.
Merci. À bientôt.
Sabine Calégari sur RTL. Parlons-nous.
venons d'écouter la douce Shadé, Hang On To Your Love sur RTL.
22h minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Bienvenue si vous nous rejoignez, parlons-nous continue sur RTL. Si vous avez pour votre vie une question qui vous tient à cœur ou vous tourmente, n'hésitez pas, le numéro vous le connaissez, 09 69 39 10 11. Et nous accueillons Brigitte. Bonsoir Brigitte.
Bonsoir Sabine.
Je crois que vous souhaitiez faire écho au témoignage d'Émilie.
Oui. Alors, moi, je suis aussi mère de famille nombreuse, en ce sens que j'ai un garçon, des jumelles et un garçon.
Alors, je vais t'arrêter un petit instant pour qu'on resitue Émilie pour ceux qui nous rejoignent. Donc, Émilie qui a 4 enfants, très rapprochés, 8 ans, 7 ans, 2 jumeaux, et qui nous a parlé d'un burn-out parental. Donc, elle est si submergée, malgré son amour pour ses enfants, qu'elle a une véritable angoisse. Elle parle de boule au ventre quand elle rentre chez elle. Donc ça, c'est pour Émilie. Et vous, Brigitte, vous dites que vous avez aussi, donc, vous avez 3 enfants.
4. Donc, un garçon, des jumelles et un garçon.
D'accord.
Et moi, je me suis retrouvée toute seule quand mes filles avaient 1 an. Donc, mon fils avait 5 ans. Et donc, je ne travaillais pas parce que je n'aurais pas gagné ma vie du tout en allant travailler. Donc, moi, j'étais 24 heures sur 24 avec mes 3 enfants.
Bon,
le grand, il allait à l'école et les deux filles, ben, 1 an. Et je peux vous dire que j'en avais un numéro entre les deux. Alors là, elle s'est mise debout plus tôt que sa sœur, elle joue au trampoline sur son ventre, elle passait partout les petits trous, elle m'a mangé plein de trucs dans le jardin, les vers
de
terre.
Une boule d'énergie.
Les baies de laurier, elle n'a jamais été malade, elle avait mangé les boutons de son gilet. Elle pompait de l'énergie pour deux. Et à un moment donné, moi, j'ai dit à mes parents, je n'en peux plus. Parce que j'étais toute seule et pas de famille non plus. Je n'ai ni frère ni sœur, mes parents étaient à 600 kilomètres.
En effet, et là, vous aviez tout sur les épaules.
Oui, et un jour, je venais nettoyer, ma fille avait renversé le pot de pipi, j'ai un meuble, elle avait barbouillé avec du lait de bébé, elle m'a fait les 400 coups, j'ai dit, j'en peux plus, j'ai fait une connerie, je n'en pouvais plus, j'en passais une par la fenêtre, je n'en pouvais plus. Et là, mes parents ont dit, bon, on vient, et ils sont venus chercher mes deux filles, j'avais été hospitalisée, parce que je faisais tout le temps de la température, parce que mon corps n'en pouvait plus.
C'est ça.
Et je me suis dit, moi, quand il va être parti, le grand va à l'école, 15 jours de repos et je vais te retaper. J'ai dormi pendant une moyenne de 16 à 18 heures pendant 2 mois et demi.
Et oui, ce que vous dites là, Brigitte, illustre ce qu'on évoquait, qu'on craignait pour Émilie, c'est qu'effectivement, passé un certain seuil de fatigue, après ça peut prendre des semaines, vous parlez de 2 mois et demi, on évoquait 3 mois, ça c'est tout à fait...
2 mois et demi.
Oui, classique.
Et alors, je dis... Et après, on garde une fragilité. C'est comme un élastique. Quand on a
tiré dessus, c'est tout à fait ça.
Alors, quand j'ai connu un gentil monsieur, au bout de 3 ans toute seule, qui m'a pris en gros lourd avec 1 kilo en trop, mes 3 enfants et le chien, et il a adopté mes enfants, et on a fait un petit 4e. Et quand le dernier a eu 2 ans et demi, il est allé à l'école, je me suis prise pendant des années... 1 semaine en vacances en Espagne, au soleil, au mois d'octobre, novembre, recharger les batteries en appart-hôtel ou à l'hôtel, ne penser qu'à moi. Je les avais une fois par jour au téléphone et mon mari, il gérait. J'avais une de mes filles qui aidait son petit frère à s'habiller. Bon, il les posait à l'école et puis il faisait un petit peu de garderie le soir et puis il rentrait tous en taxi. Et j'avais besoin de ça, de ne penser qu'à moi, de vivre à mon rythme, de traîner au lycée, j'avais envie d'aller à la piscine.
C'est ça, être dans votre temps.
Voilà. Alors, c'est ce que je dis toujours, si on ne peut pas essayer de se prendre un long week-end, d'aller, de se faire une thalasso, vraiment de rentrer dans sa bulle le maximum, mais si on peut se prendre un long week-end, ne fût-ce qu'avec un hôtel où il y a piscine, jacuzzi et tout ça, sans devoir dire « je vais faire une thalasso complète » parce qu'on n'a pas les moyens, mais je veux dire un hôtel qui permet d'avoir tout ça, plus l'air de la mer,
aucune gestion.
Vraiment, voilà, on ne s'occupe de rien, je me payais le restaurant, je sortais à l'heure que je voulais. Il y en a qui me disaient, pourquoi tu prends pas quelqu'un? Ça me venait même pas à l'esprit, j'aurais pu sortir comme j'avais envie. Non, mais j'ai fait ça pendant à peu près 7 ou 8 ans, jusqu'à ce que mon dernier ait 10 ans.
Ce qui me paraît précieux dans votre témoignage, Brigitte, c'est que en adoptant cette solution, vous semblez ne pas avoir été entravée par la culpabilité qui entrave souvent les mamans. Émilie en parlait tout à l'heure. Il me semble, Brigitte, dans la manière dont vous en parlez, que vous avez pris ça, vous avez pris cette solution avec bonheur, sans culpabiliser, en prenant acte du fait que c'était une absolue nécessité pour vous.
Ah ben oui, parce que je dis toujours, comme ma fille, elle était toute seule avec la petite qui avait 2 ans et demi, bon, maintenant elle a pris un autre bébé, je lui ai dit toujours, une maman qui va bien, les enfants vont bien. Une maman qui va mal, les enfants.
Alors là, Brigitte, je vous arrête un petit instant pour lire un très beau message de l'homme aux camélias, qui est aussi un très beau pseudo. Voyez, cette reconnaissance vient d'un homme qui dit en effet « Charité bien ordonnée commence par soi-même. En prenant soin de vous, Émilie, mais ça s'adresse aussi à vous, Brigitte, c'est votre famille que vous soignerez. » Donc effectivement, prendre soin de soi, charité bien ordonnée, on ne peut pas dire mieux. C'est une façon d'apaiser la culpabilité, qui est vraiment la clé pour pouvoir prendre soin de soi au-delà des questions pratiques.
Mais moi, j'ai pas eu besoin de culpabiliser. Moi, j'ai pas culpabilisé. Moi, j'ai dit, j'en ai besoin. J'ai été 2 mois et demi sans mes filles, juste avec mon fils. Et si j'avais pu le mettre quand il rentrait de l'école à 4h30, le mettre à 5h au lit, j'aurais fait pareil. Il allait au lit, j'allais au lit.
Oui.
Et je me levais avec lui et je me recouchais. Et je vais dire, ce qui m'a beaucoup sauvée aussi, c'est mon chien qui m'a énormément réconfortée. Alors il me servait de bouillotte parce que pendant 2 mois, je grelottais. J'étais emmitouflée dans plusieurs pulls, dans une robe de chambre avec une grosse couette sur moi et le chien à côté de moi. Et je ne faisais que dormir.
Oui, vous étiez allée vraiment au bout de vos forces et heureusement, vous vous êtes arrêtée avant de tomber gravement malade. Mais vous avez connu ce que c'est qu'un burn-out avec des besoins de semaines pour récupérer. Vous avez connu cette épreuve-là. Brigitte, c'est très précieux votre témoignage. J'espère avec vous qu'Émilie nous entend et que cela l'encouragera à ne pas aller jusqu'au bout de ses forces avant de prendre soin d'elle et de prendre ce temps juste pour elle.
Mais parce qu'après on le paye et on garde une fragilité malgré tout.
C'est vrai, c'est exact. Merci beaucoup Brigitte, continuez à prendre soin de vous.
Merci beaucoup.
Voilà, et peut-être une prochaine fois à l'antenne 09 ouais. 69 39 10 11.
Merci beaucoup.
Au revoir Brigitte.
Sabine Calégari sur RTL. Parlons-nous.